RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans la seconde partie de Je pense donc j'agis. C'est le 8 mars. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes et on s'est intéressé dans un premier temps à la place des femmes dans l'art. On va faire un pas de côté, on va s'intéresser à la place des femmes dans le milieu sportif. C'est vrai que les femmes ne sont pas toujours bien représentées et où les inégalités persistent. Et d'ailleurs, si on regarde l'année prochaine pour Paris 2024, les Jeux Olympiques, la ministre des Sports et des Jeux souhaite, je cite, « un changement plus rapide et plus profond dans la pratique du sport par les femmes ». Alors, sur le terrain, qu'en est-il? On va en discuter avec nos invités EES jusqu'à 11h. Et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous avez l'habitude de suivre le sport féminin dans les médias? Et si vous êtes une femme, est-ce que vous avez l'impression que vous avez vraiment cette place dans le sport? Est-ce que c'est dur pour vous de pratiquer un sport peut-être? Enfin, connaissez-vous des clubs, des initiatives qui donnent de la visibilité au sport féminin? On vous attend au 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. On y va.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nous continuerons d'agir comme tous les mercredis matins en parlant du patrimoine, notre patrimoine en France. Et c'est Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'Art français qui nous parlera d'une belle initiative pour permettre la restauration d'une œuvre d'art dans chaque région. Ce sera vers 10h55. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'être avec trois invités EES, hein, je répète. Bonjour Capucine Jourdain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes chargée de développement dans une association qui s'appelle Graines de footballeuses. Alors tout est dit ou presque dans le nom de cette association. Le foot est au cœur de l'association, mais pas uniquement, puisque à partir du foot, en partant du foot, vous vous intéressez également à la place des jeunes filles, des femmes dans le milieu sportif et notamment dans le football. Et vous allez nous préciser tout cela dans un instant. À vos côtés va nous rejoindre Nathanaël Gerbault, c'est la secrétaire d'une association qui s'appelle Les Dégommeuses, qui est en train d'arriver tranquillement dans le studio. Mais avec nous déjà, Aurélie Bresson. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'une fondation, la fondation Alice Mia. Qui est Alice Mia?
Alice Mia, c'est la femme qui a permis aux femmes de participer aux Jeux Olympiques en 1928 en athlétisme face à un Pierre de Coubertin à l'époque et tout un écosystème et une société qui ne souhaitait pas que les femmes se donnent en spectacle et ne participent pas aux Jeux Olympiques.
C'est une figure qui vous inspire particulièrement, Aurélie?
Oui, Alice Mia, ça m'inspire au quotidien. Je l'ai découvert que tardivement aussi à travers la création de la fondation il y a plus de 7 ans et à travers aussi tout ce mouvement de fond, hein, de toutes ces associations impliquées dont des référentes sont présentes aussi aujourd'hui. Alice Mia, c'est une figure puisqu'en fait elle était féministe, elle a créé en fait cette dynamique du féminisme dans le sport en fait, mais pas un féminisme intégriste, mais plutôt un féminisme de, ben en fait elle remettait pas en question à l'époque qu'une femme pouvait être une bonne mère, elle pouvait être une bonne femme au foyer, c'est juste qu'elle disait qu'à travers le sport ça allait contribuer à l'émancipation de la femme, donc c'est vraiment une source d'inspiration et c'est surtout le fait que, et son héritage, le fait qu'elle prône cette sororité qui est aujourd'hui primordiale en fait pour le développement de la femme dans le sport.
Ouais, voilà, Alice Mia, cette figure du sport qui était nageuse, hein, je crois, nageuse et hockeyeuse.
C'est ça ? Exactement, hockey ouais. Sur gazon, nageuse, la ramée aussi, dans les deux sens du terme. Et c'est sûr que c'est à la fois une championne, mais ce qu'on retient d'elle, c'est surtout le combat de sa vie pour que les femmes soient représentées aux Jeux Olympiques et surtout dans toutes les instances du sport, puisque elle, c'était vraiment la première femme en fait qui en a fait de son combat et qui a été membre du jury en athlétisme en 1928. C'était une grande première. Et c'est un exemple même de femme qui a complètement été invisibilisée, hein, vous en parliez aussi dans d'autres pans de la société, le sport n'en est pas exempt du tout. Du coup, Alice Mia était complètement invisibilisée et elle est morte dans l'anonymat le plus complet. Même sa pierre tombale n'avait pas son nom dans le cimetière, en fait. Donc, il y avait un gros travail de remettre les lettres de noblesse au sport féminin à travers Alice Mia.
Et elle a participé à la création, je crois qu'elle est cofondatrice à l'époque de la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Je crois qu'elle a disparu, non ? Ou qu'elle a été transformée ?
Qui a disparu. Il faut dire qu'en fait, elle a vraiment créé cette fédération nationale. Elle a également créé la Fédération sportive féminine internationale. Donc, c'est la première fédération internationale dédiée au sport féminin en 1928. On a fêté les 100 ans. 1921, pardon, c'était il y a pile 100 ans. Et pour le coup, c'était vraiment pour montrer qu'il fallait créer un écosystème pour la visibilité des femmes dans le sport. Sinon, elles étaient invisibilisées. Et son combat, son héritage, c'est vraiment de faire vivre ce sport au féminin dont elle tenait tant, puisque si on parle que de sport dans sa globalité, les femmes sont complètement invisibilisées. Donc l'objectif d'Alice Mia, c'était aussi d'avoir un modèle structuré à travers ces fédérations, à travers un modèle structurel associatif et sportif pour enfin que la femme soit reconnue à part entière dans le sport. Et aussi, puisque c'est la journée des droits des femmes, Alice Mia, elle disait toujours à ses sportives, tant qu'on n'a pas le droit de vote, on ne pourra pas s'exprimer en tant que femme sportive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de commémorer le fait qu'on n'a pas toujours eu le droit d'être des femmes accomplies sportives dans toutes les activités qu'on souhaite. Et dans des pays encore aujourd'hui, les femmes n'ont pas cette liberté de pratiquer du sport. Et ça, malheureusement, en 2023... C'est à souligner.
Et vous allez nous présenter tout ce que vous faites dans la fondation dans un instant. Capucine Jourdain, est-ce qu'il y a une sportive qui vous inspire particulièrement, une footballeuse ?
Il y en a plusieurs, mais moi, celle qui m'inspire le plus, c'est nos bénéficiaires. Elles sont pas encore connues. Peut-être qu'elles le seront un jour, mais c'est des exemples de motivation et de détermination. Qu'elles aient 3 ou 18 ans, c'est toutes des exemples à suivre.
Vous êtes footballeuse, vous, Capucine Jourdain ?
Alors moi, j'ai fait un peu de foot. Ouais. J'en ai fait quand j'étais très jeune, dans une équipe de garçons, avec mon frère jumeau. Et j'avais le droit d'être que défenseuse, car j'étais une fille.
Ouais,
donc,
j'ai
pas duré longtemps. J'ai fait d'autres sports. Je pratique à côté de mon investissement associatif le roller derby. À haut niveau. Et pendant le Covid, j'ai créé une équipe de foot militante sur Nantes. En arrivant à Paris, j'ai un peu évolué dans le milieu du foot militant parisien. J'ai rencontré Pauline de Graines de Footballeuse, la fondatrice.
En 2020, elle a créé
recrutée,
aussi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai été recrutée par Pauline dans la Graines de Foot. Et voilà, depuis mon aventure footballistique associative a commencé.
Il y a beaucoup de clichés autour du football féminin, Capucine Jourdain. Est-ce que vous entendez encore des remarques comme de toute façon, le foot, c'est un sport de mecs.
Ah bah ouais, tous les jours. Ouais, il y a encore beaucoup de clichés et il y a beaucoup de propos très problématiques. Là, on a lancé un appel à témoignages hier, d'ailleurs, auprès de notre communauté pour savoir s'il y avait encore des mots aussi durs que ceux qu'on pouvait entendre, en tout cas Pauline, quand elle jouait. Et les témoignages qu'on reçoit sont assez effroyables. Des jeunes qui se font dire par leur coach « Maigris si tu veux rentrer dans un chasuble ». Des jeunes de 14 ans qui reçoivent des commentaires aussi de leur coach du type « si on vous coach, c'est juste pour regarder vos fesses ». Il y a des trucs encore assez énormes dans le foot féminin et dans le sport féminin. Donc le combat continue.
Ouais, le combat continue, ça bouge quand même. Et si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est parce que vous faites beaucoup de choses pour faire évoluer les mentalités. Ça bouge, ça évolue. C'est vrai qu'il y a l'échéance des Jeux Olympiques 2024 aussi qui amène beaucoup de choses avec le souhait d'une parité femmes-hommes dans les sportifs. On va avoir l'occasion d'en reparler. Bonjour Nathanaël Gerbeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes la secrétaire d'une association qui s'appelle Les Dégommeuses. Qu'est-ce que vous dégommez, Nathanaël ?
Ben, on dégomme toutes les discriminations. En fait, l'idée des Dégommeuses, c'est qu'on est à la fois une équipe de foot et à la fois une association militante. Donc on a une partie entraînement la semaine où on se retrouve pour jouer sur les terrains de Paris. Et le week-end, on organise des actions de proximité avec les jeunes. On fait du plaidoyer auprès des institutions, etc. pour essayer de changer les choses dans le foot.
Comment vous êtes tombé, vous, dans la marmite du football, Nathanaël ?
Moi, je suis tombée... En fait, c'était un rêve que j'avais depuis toute petite, mais qui n'était pas formulé, que je ne me formulais pas, parce qu'en fait, je n'avais pas d'image qui m'était parvenue de footballeuse. J'avais, par exemple, un poster de l'équipe de France masculine dans ma chambre. Je faisais des séances photos en posant comme une footballeuse avec une tenue de foot, mais jamais je n'avais vu d'image de footballeuse. Donc jamais on m'a proposé de faire du foot. Moi j'ai fait de la course d'orientation, un sport un peu plus intimiste. Et c'est en arrivant à Paris que mes envies de football sont revenues et j'ai cherché un club. J'ai d'abord fait des essais dans un club de la Fédération Française de Football, mais comme je n'avais pas le niveau, je n'avais pas la technique, bien que j'avais de l'endurance, du coup j'ai pas été acceptée. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur l'équipe des Dégommeuses, qui est une équipe qui accepte tous les niveaux de jeu, et notamment les débutantes.
Ben voilà pour le décor qu'on a pu poser ensemble. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour participer, pour témoigner également. Dites-nous déjà si vous avez l'habitude de suivre ce qu'on appelle le sport féminin dans les médias. Si vous êtes une femme, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une vraie place dans le monde sportif? Et puis, connaissez-vous des clubs, des initiatives, des associations comme celles qu'on présente ce matin qui permettent vraiment de donner une visibilité au sport féminin? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Aurélie Bresson, est-ce que ça vous choque quand j'utilise cette expression, le sport féminin? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre les pieds dans un sujet aussi qui est compliqué, de vraiment séparer le sport masculin du sport féminin?
Or moi, ça me choque pas. Je vous encourage à dire du sport féminin. Il est vrai que dans le langage quotidien, hein, on le voit avec aussi les deux autres invités, quand elles disent j'ai fait du foot, elles disent pas j'ai fait du foot féminin, mais j'ai fait du foot. Donc c'est vrai que dans le langage courant, on dit que j'ai fait du foot féminin. Quand je dis que je fais de la gym, j'ai pas dit je fais de la gym féminine. Ouais. Mais il est sûr que si on veut vraiment faire exister le sport féminin et la pratique sportive féminine dans l'écosystème du sport, il est important de le nommer, donc d'où le fait de parler de sport féminin. Mais on aura tout gagné quand on parlera davantage de sport masculin en face. Hein. On l'a vu avec un très bel exemple de la Coupe du Monde féminine de football en 2019. On l'a bien dit, Coupe du Monde féminine de football, oui. Et pas Coupe du Monde de football féminin. Oui. Et pareil sur la partie Coupe du Monde masculine de football. Oui. Il faudrait que ce soit davantage précisé pour que ce soit plus équilibré.
La Coupe du Monde féminine de football qui avait été pas mal médiatisée, moi je me souviens. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a fait du bien justement au sujet?
Je pense que ça a été un tournant sur la ferveur populaire, hein, sur la présence dans les stades, et aussi sur la partie médiatique, sur des chaînes comme TF1 qui ont misé en fait sur ce championnat. Ça a été un tournant médiatique. Malheureusement, on le voit avec les derniers chiffres de l'ARCOM qui sont sortis sur la retransmission télé du sport féminin, qui ne dépasse pas les 5%, alors qu'on était à 20% il y a 2 ans. Donc on voit que ça a fait un soufflet, en fait, que le sport féminin se contente de très grands événements sportifs, d'audience, de très grands événements, et que le reste du temps, les championnats sont complètement passés à la trappe dans les chaînes de télévision et dans les médias, qu'il faut profiter de ce genre de journée comme la journée des droits des femmes ou la journée internationale du sport féminin pour avoir cette visibilité au sport pratiqué par les femmes, gouverné par les femmes, coaché par les femmes. Et le reste de l'année, ça passe encore, malheureusement, trop individualisé, ça passe à la trappe.
Avec une conviction pour vous trois, c'est que tous les sports peuvent être pratiqués autant par les hommes que par les femmes, Aurélie?
Oh, clairement, clairement. La femme a le droit aujourd'hui de pratiquer tous les sports qu'elle le souhaite, ouais. Dont elle a envie,
vous dites
de
bien,
la boxe, du football, de l'haltérophilie.
Ouais. Vous dites bien, elles ont le droit Et je crois que ce mot, il est très important pour vous.
Oui, c'est qu'elles ont le droit. Après, moi, je sais que j'aurais pas du tout la capacité de faire de la boxe parce que ça fait pas partie de mon quotidien. Ça fait pas partie de ma physionomie. J'ai fait de la gymnastique. Vous mettez un ballon ou des gants de boxe, je sais que je suis pas douée du tout. Mais si j'en ai vraiment la volonté d'essayer et de m'initier, j'ai le droit de le faire. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, aucun sport est inaccessible en termes de droit pour une femme. Après, c'est à tous et chacun de voir suivant sa capacité, sa physionomie et surtout l'envie.
Capucine Jourdain, dans l'association Graines de footballeuses. Alors, vous dites pas forcément le sport féminin. Par contre, vous dites bien le football féminin. C'est bien noté sur votre site internet. Est-ce que c'est un parti pris?
Non, c'est juste pour bien différencier et faire comprendre sur quel... sur quel terrain on joue. moi, je me permettrais juste de commenter sur ça.
Oui.
Je crois que ce qui compte, c'est pas de dire sport féminin ou sport masculin, parce que de toute façon, ça rentrera pas dans le vocabulaire courant de préciser de cette façon-là. Ce qui compte, c'est de donner la parole à des femmes pour parler de sport, qu'il soit pratiqué par des femmes ou par des hommes.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on arrivera à arrêter les différenciations. Parce que dès qu'on se précise, en fait, dès qu'on précise sport féminin, eh ben, on crée une comparaison, on crée une hiérarchie. Et c'est ça qu'il faut réussir à l'avenir à arrêter à faire, je crois. Nous, on travaille que auprès d'un public féminin, principalement. On accueille des hommes dans notre association, mais sur les terrains, on essaie de créer des espaces où les jeunes filles se sentent bien. Donc c'est important que les parents puissent identifier ça. Mais c'est pour moi la seule raison valable de le préciser de cette façon, en tout cas.
En tout cas, ce matin.
Et je me permettrais de juste aussi ajouter que toutes les femmes ont le droit de faire du sport, de faire tous les sports, et toutes les femmes peuvent le faire de manière excellente. Si c'est pas juste commencer en tant que débutante dans tous les sports, il y a des femmes qui font tous les sports et il y a des femmes qui sont excellentes dans tous les sports.
Nathanaël Gerbeau, vous êtes d'accord avec Capucine et Aurélie?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est toute l'idée de notre association, c'est d'accueillir toutes les personnes telles qu'elles sont. Et tout le monde est vraiment bienvenu sur les terrains. Nous, on a des joueuses qui ont 20 ans et d'autres qui ont fêté leurs 50 ans cette année. Donc l'idée, c'est aussi de faire du sport ensemble à travers les générations, à travers également les origines géographiques, les classes sociales. Vraiment, c'est un sport inclusif.
C'est-à-dire un sport inclusif pour vous?
C'est-à-dire un sport qui accueille chacune et chacun tel qu'il est. Et qui lui, on va reprendre le mot droit, qui lui donne le droit de jouer à son sport, de peu importe d'où il vient et peu importe qui il est.
Ce n'est pas le cas pour vous actuellement dans certaines compétitions sportives?
Non, ce n'est pas le cas. Par exemple, nous, en fait, au sein de l'association, on a notamment des personnes trans qui, au sein du sport fédéral, ne sont pas accueillies comme ces personnes le sont. Il y a encore beaucoup de travail également à ce niveau-là.
Aurélie Bresson, l'inclusion, c'est aussi très important pour la Fondation Alice Millat.
Oui, je dirais même que tout ce qui est égalitaire et inclusion sont vraiment les mots-clés qu'on utilise au quotidien, tant à travers ma casquette sur la Fondation Alice Millat que ma casquette de fondatrice du Médialet Sportif qui existe depuis bientôt 7 ans. C'est vraiment en fait d'être dans cette démarche d'inclusion, d'aller bien plus loin que juste la femme dans le sport, mais c'est dans tous les pans de la société, dans tous les finalement dans toutes les dimensions, que ce soit en tant que coach, en tant que femme en situation de handicap, que ce soit femme issue de minorités, etc. Donc c'est toutes les discriminations finalement, c'est tous les sujets qui sont liés. Donc pour moi l'inclusion c'est vraiment plus large. C'est aussi le côté inclure cette égalité homme-femme, c'est-à-dire que, enfin, j'aime pas trop utiliser le mot égalité, moi je suis toujours plus sur l'équité, donc ça me perturbe toujours un peu. Mais l'inclusion, ça veut dire qu'on est vraiment inclusif sur le fait d'intégrer aussi les hommes dans la démarche, de les sensibiliser, de plus d'égalité et de laisser plus de place aux femmes dans leur pratique et dans la gouvernance.
Capucine Jourdain, le football, alors on a eu l'occasion de pas mal en parler dans Je pense donc j'agis, et on disait que c'était sans mauvais jeu de mots un terrain idéal, vecteur d'éducation aussi, de bienveillance. Ça, c'est quelque chose que, j'allais dire, qui est au cœur aussi de l'association Graines de Footballeuses, c'est d'offrir cet espace, vous l'avez dit, à des jeunes joueuses de football, pour qu'elles puissent peut-être apprendre déjà à jouer au foot, mais dans un espace très bienveillant, pour les faire grandir aussi.
Carrément. En fait, au-delà d'être au cœur de nos actions, c'est l'essence de notre mission. Nous, on utilise le football comme un outil pour réunir les jeunes, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la force du sport et le pouvoir fédérateur du football. Donc, on joue vachement là-dessus pour amener les filles sur notre terrain et leur transmettre des valeurs. Et les valeurs qu'on essaie de transmettre à travers toutes nos actions, c'est la bienveillance, la solidarité, le respect de l'autre, l'égalité aussi, l'équité. On essaye vraiment, en fait, à travers toutes nos actions, d'amener ça. Et en fait, on fait venir les filles par le foot, mais après, nos actions sont toujours accompagnées d'autres choses, des initiations à la prise de parole, des sensibilisations avec des associations qui travaillent sur un sujet sociétal important, des moments d'échange avec les jeunes pour savoir comment ça se passe dans leur vie, dans leur club, comment on peut les aider, si on peut faire un peu de soutien scolaire de temps en temps. On a des bénévoles qui s'en chargent aussi. Enfin, il y a vraiment une dimension plus grande que juste une pratique footballistique.
Avec aussi un objectif, c'est d'aider, on va dire, les joueuses à prendre confiance en elles, c'est ça, autour de sujets différents. Parce qu'elles sont jeunes quand même, hein, les joueuses qui font partie de l'association.
Ouais, bah, y en a des jeunes et des moins jeunes. On fait des actions à partir de 3 ans. Donc ça, c'est nos babies, c'est des actions pour les 3-6 ans, donc très très jeunes. Mais elles n'ont pas trop de mal à s'affirmer sur le terrain. Elles sont plutôt sûres d'elles et c'est assez chouette à voir. En fait, on a créé ce programme pour intervenir avant que ces jeunes puissent intérioriser des préjugés qui les tiendraient à l'écart des terrains plus tard. Là, en leur mettant un ballon dans les pieds à 3 ans, eh ben, elles se demanderont pas à 4 ans dans la cour de l'école si elles ont le droit de faire du foot avec les garçons, parce qu'elles font déjà du foot. Et après, on travaille aussi avec un public un peu plus âgé, donc de 12 à 18 ans, où il y a déjà eu une intériorisation de préjugés, où il y a déjà des comportements un peu limitants. Donc nous, on essaie de déconstruire un peu ça et de les aider à prendre confiance en elles en leur offrant un espace où elles peuvent s'affirmer, où elles peuvent dire vraiment ce qu'elles pensent, qu'elles ressentent pendant un entraînement. Et c'est très important pour nous, toute cette démarche de prise de confiance en soi.
Donc le foot, vecteur de changement individuel, on va dire, social. Et pour vous, Nathanaël Gerbeau, et pour les dégommeuses, vecteur de changement politique. C'est vrai que quand on regarde vos différentes actualités, et puis même votre site internet, lesdégommeuses.org, on se rend compte que la politique fait partie vraiment de l'association. Vous faites beaucoup de plaidoyer, de militantisme.
Ouais, tout à fait. En fait, pour nous, ça rejoint un peu ce que Capucine disait, c'est-à-dire que le sport et le football en particulier, c'est une puissance. On peut toucher en fait les gens par ce biais-là. C'est-à-dire que c'est un sport tellement populaire que dès qu'on commence à parler football, on peut parler en fait littéralement avec tout le monde. C'est-à-dire que peu importe où on va, si on commence à parler football, tout de suite le dialogue se crée. Et en fait, dialoguer entre nous, citoyens, c'est faire de la politique. Donc c'est pour ça que le principe de l'association, c'est de combattre les discriminations dans le sport, évidemment, mais aussi par le sport dans la société. Moi, j'aime bien dire que quand on fait la passe à un autre joueur, une autre joueuse, quand on lui passe la balle, en fait, on lui transmet la balle et c'est la transmission. Et en fait, on ne transmet pas qu'un ballon, mais on transmet aussi des idées et on commence à amorcer un dialogue. Et en fait, c'est tout simplement de la politique.
Aurélie Bresson, est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge pas mal quand même autour, alors je vais réutiliser cette expression, du sport féminin, pardonnez-moi, il y a aucune volonté de choquer, mais c'est vrai que pour nos auditrices et nos auditeurs, on comprend tout de suite de quoi on parle. Est-ce qu'il y a un effet JO 2024 d'après vous, Aurélie? On parle, alors c'est la ministre des Sports d'ailleurs qui fait un vrai travail là-dessus, qui aimerait obliger les chaînes de télévision à diffuser les gros événements en clair qui qui consacre le sport féminin. On parle aussi de la maternité des sportifs qui devrait être facilitée. Bref, il y a beaucoup de sujets en ce moment, Aurélie.
Oui, après, ce sont des sujets qu'on un peu toujours... ça fait quelques années déjà qu'on en parle toujours plus. Je dirais qu'il y a bien plus qu'une libération de la parole, il y a une libération de l'écoute. Hein, il y a des politiques aussi beaucoup plus attentifs. Mais pour revenir à votre question, il est clair que l'enjeu des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, c'est un accélérateur. C'est le moment ou jamais où il faut accélérer sur tous les sujets. Il y a des fonds qui existent et c'est un accélérateur. Tout le monde débloque, tout le monde veut être dans cette dynamique. Donc c'est le moment à la fois politiquement et sociétalement de s'y engouffrer, puisque ça a été prouvé à travers les années. Hein, je reviens sur l'histoire d'Alice Mia,
oui.
Mais les Jeux Olympiques ont toujours permis un accélérateur, que ce soit de pratique, d'engouement et d'enjeux politiques. Là, on annonce quand même des Jeux de Paris 2024, des premiers Jeux paritaires de l'histoire, c'est-à-dire autant de participation hommes que femmes. C'est pas rien, il a fallu quand même plus de 100 ans. Bon, je précise que c'est bien les Jeux Olympiques, hein, puisque c'est pas le cas sur les Paralympiques. Donc, comme quoi, il y a encore du travail à mener sur plusieurs champs aussi. Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques ont toujours été une fenêtre médiatique et politique hyper importante pour impulser des nouvelles pratiques, des nouvelles directives, et on voit que là, sur la partie structurelle du sport, on se remet en question. On se dit bon, on a les Jeux à la maison à Paris en France en 2024. Est-ce que notre structure sportive est prête à endosser ça, est prête à passer l'après-jeu aussi? Et du coup, il y a un vrai travail de fond qui est réalisé aussi depuis quelques années à travers ces femmes ministres des sports, puisqu'il faut le rappeler que le poste le plus féminisé dans le sport, c'est celui de ministre, qui ont toujours été, à travers Marie-George Buffet ou Roxana Brasileanu, ou même là, Amélie Oudéa-Castéra, qui ont vraiment pris ces sujets à bras le corps dans cette perspective des jeux, sur la maternité, sur les violences sexistes et sexuelles également. Et oui, on sent que ça bouge. Il est clair que ça bouge, parce que maintenant, on veut plus de retour en arrière. On veut que ça avance, on veut que ça s'accélère. Il y a plus d'excuses. Et en fait, surtout, après, faut faire attention à l'arbre qui cache la forêt, parce que on peut dire oui, il y a pas mal de choses qui avancent, mais qu'il y a un décalage aussi entre le Paris et les autres régions de France. Ça avance à petits pas, même si sur certains aspects comme la médiatisation, j'en parlais tout à l'heure, on est passé de 20% à moins de 5%. On se dit là, on y va à reculons. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'il faut toujours rester vigilante, comme disait Simone de Beauvoir, et surtout que en fait, maintenant, on est encore plus mobilisé dans cette sororité pour qu'il y ait un recul, qu'il y ait un retour en arrière, quoi.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous faites beaucoup de choses au sein de la Fondation Alice Mia, notamment les trophées Alice Mia, le Queen's Rugby 7 Festival ou encore le Challenge Alice Mia. En quoi ça consiste, tout ce que vous faites? Est-ce que c'est finalement de réussir à réunir des sportifs pour, j'allais dire, les mettre en valeur, les mettre en avant aux yeux du public?
En fait, la Fondation Alice Mia a vraiment un double enjeu. Hein. Le premier, c'est de faire reconnaître Alice Mia, d'avoir un caractère un peu politique, au final, olympique. Et surtout, l'héritage d'Alice Mia, qui est le deuxième axe de travail, sur cet héritage structurel, donc cette dimension de fédérer, mobiliser, financer et d'accompagner, en fait, des associations. On n'accompagne pas des athlètes à titre individuel, mais vraiment des projets, des associations en faveur du sport féminin, donc que ce soit sur le développement de la pratique, la gouvernance, des sujets comme les violences sexistes, oui, et sexuelles. Et pour le coup, la Fondation, on est vraiment sur du financement, d'accompagnement de projets et mise en lumière, dont le dernier festival du documentaire et du film du sport féminin qu'on a organisé à Nice il y a quelques jours, qui s'appelait Les Sportives en Lumière. Donc on est vraiment dans cette démarche de valoriser et surtout de fédérer tout un écosystème autour du sport féminin pour, comme je disais au début, l'essence même d'Alice Mia, c'était la sororité, il faut y aller, mais ensemble.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis, en attendant vos appels pour nous dire si vous connaissez des clubs ou des initiatives, des associations qui donnent de la visibilité aux sportives. Dites-nous également si, en tant que femme, vous considérez avoir toute votre place dans le monde du sport et si vous avez l'habitude de suivre des compétitions féminines de sport dans les médias. Même chose. 04 72 38 20 23 ou vos messages par mail à direct@rcf.fr. À tout de suite.
Moi, de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Tu écris une autre histoire et moi je fuis. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Qu'est-ce que tu crois que je veux? Que nos caresses en mêlée soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres.
Stiletto, c'était Gaffe aux autres sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec nos trois invités EES, jusqu'à 11h, Capucine Jourdain, vous êtes chargée de développement dans une association qui s'appelle Graines de footballeuses. Aurélie Bresson, présidente de la fondation Alice Mia, et Nathanaël Gerbeau, secrétaire de l'association Les Dégommeuses. Nathanaël, qu'attendez-vous d'une journée comme celle d'aujourd'hui, le 8 mars hein, pas forcément la journée de la femme, mais la journée des droits des femmes.
Alors honnêtement, on est content de voir que ça se greffe à la grève générale d'hier. Donc ça, non mais vraiment parce qu'en fait pour nous, la lutte elle est de tous les côtés et on sait très bien que évidemment les femmes sont parmi les plus précarisées socialement. Donc je pense que ça fait une belle combinaison avec la journée d'hier. Et sinon, pour nous, une journée comme celle-là, elle est importante parce que elle permet voilà de mettre en lumière un sujet comme celui de ce matin. Il y a beaucoup d'initiatives du coup qui sont créées dans les collèges, dans les lycées. Et par exemple, on a reçu beaucoup d'invitations de la part de professeurs de différents collèges et lycées d'Île-de-France pour justement venir parler du sport, organiser des tournois avec les jeunes. Donc c'est, on va dire que c'est une réussite ce genre de journée puisque ça crée des initiatives. Après voilà, le combat il est quotidien et on va continuer de se battre tous les jours de l'année.
Et vous, Capucine Jourdain, une journée comme le 8 mars ?
Eh ben, comme dit Nathanaël, pour nous, le 8 mars, la lutte pour les droits des femmes, c'est tous les jours, en fait. Donc, au niveau individuel, il y a une différence avec les autres jours. Hein. Le 9 mars, on continuera à bosser pour le droit des femmes. Mais c'est plutôt sur une question de visibilisation. Oui, c'est important que ce genre de journée existe et c'est important de corriger les gens qui disent « journée de la femme ». Autant qu'on peut, moi j'invite tous les auditeurs et auditrices à le faire. Si jamais vous êtes confrontés à des gens qui appellent encore le 8 mars la journée de la femme, il faut préciser, c'est important, les mots ont un poids, que c'est la journée des droits des femmes ou de lutte pour les droits des femmes et pour la visibilisation de nos combats.
Aurélie Bresson, qu'aurait pensé Alice Mia d'une journée comme celle d'aujourd'hui, d'après vous ?
Ben, ça faisait vraiment partie, en fait, finalement, du combat d'Alice Mia, c'était d'avoir ce droit-là, en fait, qu'elle n'avait pas à l'époque. Elle le disait vraiment clairement, on n'a pas le droit de vote, les femmes. Donc, on peut pas exprimer qu'on a envie de pratiquer du sport et que ça fait partie de nos droits. Donc, une journée comme aujourd'hui, hein, comme l'a vraiment très bien dit Capucine, je me trompe pas sur le prénom, sur cette notion de droit, en fait, c'est pas une journée de la femme, c'est pas, pour nous, c'est pas une journée de la sportive, c'est une journée des droits pour jamais invisibiliser, et cette journée permet de laisser une trace finalement et de dire ben on peut plus revenir en arrière, et c'est sûr que Alice Mia, ça fait partie de cet héritage, en fait, de se dire que toutes ces femmes qui s'engagent, qui sont dans une démarche de sororité pour ne plus jamais oublier ni invisibiliser, elles seraient extrêmement, extrêmement, extrêmement fières, je pense.
Aurélie Bresson, parlons de votre site internet, Les Sportives. C'est un média que vous avez créé à part entière sur internet. Hein. En quoi il consiste, ce site, et pourquoi vous l'avez créé d'ailleurs ?
Alors bien plus qu'un site, hein, il y a à peu près plus de 7 ans, j'ai créé le magazine papier Les Sportives, qui était le premier magazine de sport féminin dédié aux sportives. Aujourd'hui, 7 ans après, c'est mon combat, c'est mon gros combat de faire vivre Les Sportives, mais bien plus que le magazine. Maintenant, c'est un groupe média. Hein, on a plusieurs canaux, on a des podcasts, on a le média en ligne qui fait des très belles audiences. On fait également des vidéos, on a ouvert notre chaîne TikTok et on a également ouvert la semaine dernière notre partie livre. Donc on édite des livres toujours pour raconter l'histoire des sportives. Et pourquoi je l'ai appelé Les Sportives et pas La Sportive, c'est que en fait c'est les sportives dans leur diversité, pour ne pas encore faire rentrer la femme dans les carcans, comme cette journée de la femme. Ce n'est pas la journée de la femme, mais des femmes, des droits des femmes. Donc Les Sportives, ça faisait partie vraiment de cette création des sportives, c'est toutes les sportives dans leur diversité, dans cette richesse, et à la fois des sujets de fond qui sont vraiment pour lever des freins, pour casser des tabous, mais à la fois aussi des sujets inspirants pour ne plus jamais oublier. Au début, je disais, bon, les sportives, je l'ai créé pour, ça va durer 2-3 ans, on va voir, hein, quand les sportives aura pleinement intégrer les sujets des médias, les sportifs pourra s'éteindre. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y aura toujours des sportifs, on aura toujours tous et toutes des sportifs autour de nous à valoriser, à inspirer. D'où la création de ce groupe média aujourd'hui, qui est un groupe média dédié au sport féminin et le seul en Europe.
Et vous mettez également en avant des initiatives, un peu comme les associations qu'on présente ce matin. Est-ce que typiquement, les dégommeuses ou les graines de footballeuses ont leur place dans le magazine Les Sportives ?
Oui, les dégommeuses et graines de footballeuses, on a déjà fait des sujets sur ces très belles initiatives. On a l'occasion de se retrouver également sur différents événements. Je crois que les dégommeuses ont dû faire partie de la genèse des premiers sujets qu'on a fait sur Les Sportives. Ce sont des associations qui sont vraiment incontournables aujourd'hui dans l'écosystème du sport et du sport au féminin. Donc, il est sûr que à travers le média Les Sportives, on se doit, c'est un devoir de valoriser ces initiatives-là dans leur richesse et surtout dans leur combat. On dit bien le mot combat.
Capucine Jourdain, revenons aux graines de footballeuse. Il y a quelque chose aussi qui est important pour vous, c'est de faire découvrir aux jeunes filles un large panel de métiers autour du sport grâce à des intervenantes ou intervenants d'ailleurs, les deux, qui viennent vraiment transmettre leur passion du sport.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on s'est rendu compte que dans notre communauté de bénéficiaires, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pour passion que le football et pour qui l'école, c'était compliqué. Il y a des situations de décrochage scolaire ou de gros désintérêt au niveau scolaire par manque d'idées de carrière. Et du coup, nous, on a voulu, encore une fois, par le foot et par le sport, réussir à les raccrocher scolairement, donc en leur présentant des métiers qui sont liés à leur passion. Donc, leur faire comprendre que si on veut travailler dans le sport, on n'est pas obligé d'être une sportive professionnelle. On peut aussi être kiné, on peut être journaliste, on peut être agent événementiel, on peut être documentariste. Enfin, il y a plein de métiers qui gravitent autour de sport de plus en plus. Le sport est un milieu de plus en plus professionnalisant. Et du coup, nous, on voulait vraiment réussir à intéresser nos jeunes sur ces différents sujets.
Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Oui. Alors, je voulais vous relater un événement, certes, qui date d'il y a une quinzaine d'années, mais bon, il était quand même remarquable. Je connaissais une petite fille qui jouait dans un club de foot, hein, et au cours d'une compétition, d'un match, à la fin du match, les deux équipes se serrent la main, et les garçons de l'équipe adverse ont refusé de serrer la main à cette petite fille, et il y en a un qui lui a craché dessus. Et quand les entraîneurs ont été interpellés par quelqu'un qui a dit « mais enfin, c'est pas normal », les deux entraîneurs ont rétorqué que ben, c'était comme ça et qu'il fallait bien qu'elle s'y habitue. Donc je me pose la question, alors certes c'était il y a une quinzaine d'années, de la formation des entraîneurs et de l'encadrement des jeunes dans les clubs et notamment les petits clubs, et des sanctions éventuelles qui peuvent être posées sur des actes comme ça qui sont absolument pas admissibles.
Et ce n'était pas il y a 100 ans, c'était il y a 15 ans, hein, Laurence, que vous nous racontez. Merci beaucoup pour cet appel au 04 72 38 20 23. Je crois que vous mettez une pièce dans la machine quand j'ai vu la réaction de Capucine, de Nathanaël et d'Aurélie. Tiens, Capucine, je me tourne vers vous. C'est intéressant hein, ce qu'a dit Laurence, notamment sur la formation des entraîneurs et des encadrants.
Ouais, c'est très intéressant. Et ce qui est triste à dire, c'est que ça, c'est arrivé il y a 15 ans, mais je pense que c'est arrivé la semaine dernière aussi. On a beau prendre la parole de plus en plus, les mentalités mettent du temps à changer. Pour la petite histoire, nous, la fondatrice de l'association Graines de Footballeuse, Pauline Lemolic, elle a joué avec des garçons toute son enfance en Normandie. Et à 12-13 ans, elle a fini par arrêter, non pas à cause de ses coéquipiers qui l'intégraient très bien à l'équipe, mais à cause des adversaires qui systématiquement sur les matchs l'insultaient, pensaient que c'était gagné d'avance parce qu'il y avait une fille dans l'équipe. Et en fait, elle a repris le foot qu'à 20 ans en arrivant à Paris. Elle a coaché des jeunes et elle s'est rendue compte que les mécanismes étaient toujours en place 10 ans plus tard. Et ça, c'était il y a 3 ans. Donc ça existe toujours. Il y a une vraie question de formation des éducateurs. Mais malheureusement, en fait, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'hommes éducateurs dans le foot qui pensent que s'occuper des filles, c'est pas intéressant. Donc, c'est pas les meilleurs qui y vont, forcément. Il y en a des brillants. Nous, on a un de nos bénévoles qui est coach d'une équipe vers Saint-Germain-en-Laye, qui est vraiment fantastique, très éduqué sur la question, déconstruit. Et il y a pas de problème, mais il y a encore, il reste encore, de mon expérience, une exception. Et il y a un vrai sujet de formation des éducateurs, mais aussi d'intégration d'éducatrices dans les équipes qui s'occupent des filles. Même si un homme est très très déconstruit, très safe, etc. Une jeune fille peut avoir du mal à aller vers lui pour parler de ses problèmes. Oui. Et c'est important que dans les staffs, il y ait des femmes, il y ait des jeunes filles auxquelles les joueuses peuvent, auxquelles les joueuses peuvent se confier et dans lesquelles les joueuses peuvent se reconnaître. Donc sur ça, oui, il y a un gros travail encore. Malheureusement, je crois que c'est pas la priorité de notre fédération.
Trois petits points. Nathanaël Gerbeau, la situation décrite par Laurence, c'est typiquement ce que vous essayez de dégommer dans l'association Les Dégommeuses.
Bah oui, exactement. Et c'est vrai que en fait le sexisme notamment dont on parle là, en fait, il est systémique au sein de la Fédération française de football et on l'a bien vu ces dernières semaines avec l'exemple de l'ex-président Noël Le Graët qui évidemment a pu pendant des années proférer des propos sexistes, racistes, etc. en toute impunité. Et d'ailleurs, donc le sexisme est systémique dans cette fédération, mais aussi le racisme, la misogynie, etc. L'homophobie également. Donc, en fait, il s'agirait de refonder cette fédération qui, voilà, est sclérosée de l'intérieur. Et en refondant cette fédération, on pourrait, voilà, mettre en place, voilà, des formations pour les entraîneurs et pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde du football. Mais malheureusement, si l'initiative ne vient pas d'en haut, rien ne pourra être fait. Donc, au sein des dégommeuses, voilà, on a des initiatives de proximité. Et on essaye, voilà, on va dans les collèges et on parle de tous ces sujets-là aux jeunes filles qui sont pour le coup assez positionnées sur le sujet, c'est-à-dire que là, il y a quelque temps on est allé dans un collège à Ivry-sur-Seine et en fait on s'est rendu compte que les petites de 13-14 ans étaient déjà très très positionnées, savaient déjà que par exemple le sexisme ou la misogynie étaient des problèmes globaux. Par contre, on voit que chez les petits garçons, c'est pas encore le cas. Mmh. Et donc aller dans les collèges parler de ces sujets-là, ça fait évoluer les mentalités lentement. Et il y a les professeurs aussi qui font du travail sur le sujet. Mais il faut aussi que les dirigeants veuillent que les choses changent. Et pour l'instant, à la tête, par exemple, de la Fédération de football, ce n'est pas le cas.
Donc il y a tout un volet sensibilisation à développer. Encore plus, ça on l'a entendu. Aurélie Bresson, vous êtes abritée, alors pour la fédération, vous êtes abritée par la fondation du sport français, pardon, je me perds. Est-ce que vous avez des liens typiquement avec la FFF, la Fédération Française de Football? Comment vous avez réagi par rapport à toutes ces histoires, toutes ces affaires au sein de la fédération?
Alors, à travers la Fondation Lismia, on travaille très facilement avec certaines fédérations, hein, forcément la Fédération d'Aviron, de handball, qui sont un petit peu plus sensibles à cette question d'égalité et de parité. Hein. La Fédération Française de Foot, c'est un petit peu plus compliqué. Après, il y a des initiatives comme le projet, l'initiative sensationnelle qui a été impulsée avec Intermarché, me semble. Voilà, auquel nous, on n'est pas forcément impliqués. On suit de loin pour avoir une visibilité de l'ensemble des initiatives et des projets. Mais il est vrai qu'avec la Fondation, on n'est pas sur un caractère dénonçant non plus. On est vraiment sur un caractère structurel et financier. On est en effet abrité par la Fondation du sport français, dont le président est Thierry Braillard, qui était ancien secrétaire d'État au ministère des Sports et qui a aussi mis en place beaucoup de choses, hein, le pacte de performance, la conférence permanente du sport féminin, voilà, qui a impulsé aussi pas mal de choses. Malheureusement, le lien avec les fédérations est encore trop complexe, surtout avec la Fédération française de foot, même si on avait de très bonnes relations avec Brigitte Henriquez quand elle y était, ou encore Frédéric Jocinet, qui je pense qu'ont essayé à leur niveau de faire avancer les choses. Mais il y a quand même un gros tank à faire se déplacer et surtout une gouvernance de baronisme à faire bouger. Donc c'est pas si facile, et si je prends la casquette des sportifs sur le volet média, bien sûr que toute mon équipe, qu'elle soit surtout journalistique, est au pied levé pour suivre tout ce qui se passe dans le football, et surtout avec l'affaire autour de Noël Le Graët. On a profité pour le caricaturer, c'est un peu notre credo aussi, l'autodérision. Donc on avait même fait une caricature de Noël Le Graët où il est en train de tenir le magazine en disant si je m'abonne au magazine, est-ce qu'on oublie tout. Voilà, nous on en joue parce que voilà, parfois il faut aussi en rire, c'est un peu notre credo, autant être aussi dans l'autodérision. Des fois les messages ils passent beaucoup mieux avec un peu d'humour.
Bon, il y a du boulot, en tout cas, on l'entend. Il y a de la poussière, non pas à mettre sous le tapis, mais plutôt vraiment à nettoyer. Le foot, ça avance. On se souvient de la compétition féminine, on en a parlé. Il y a une autre compétition, alors loin du hockey d'Alice Mia, c'est la Formule 1, hein, qui devrait lancer prochainement une compétition réservée aux femmes pilotes. Ça s'appellerait la F1 Academy. C'est vrai que la Formule 1, c'est pas forcément un domaine où on pouvait s'attendre à avoir une compétition de femmes pilotes. Comment vous l'avez reçu, ça, Alice Mia? Alice Mia, Aurélie Bresson, pardonnez-moi.
Non, mais on m'appelle souvent Alice.
Ah, mais je suis confus. Aurélie, non, mais... c'est un honneur. C'est un honneur.
Ça va, pour moi, c'est pas insultant du tout. Je le défends au quotidien et le mot Alice, enfin le prénom Alice me suit en fait dans toutes mes actions. Comment est-ce qu'on a appris que je revienne sur votre question, parce que du coup, on s'est un peu perdu sur la F1. Sur la F1, ben déjà en fait rien que le fait que vous disiez qu'on n'attendait pas les femmes en F1, moi ça me choque en fait. Les femmes, elles conduisent aussi en fait, donc elles peuvent conduire aussi vite, même très vite. Donc je pense que c'est à l'image aussi de ce qui s'est passé dans le Vendée Globe avec la Banque Populaire, c'est qu'en fait la réglementation et tout ce qui est régi par des directives et par des règlements, voilà, faut les dépoussiérer, il faut les adapter à aujourd'hui. Donc qui est enfin un championnat dédié pour les femmes sur la F1, mais allons-y, c'est comme enfin la réglementation se dit, ben on va l'ouvrir aux femmes à un moment donné, ce serait bien. On va l'adapter aussi pour que les femmes puissent y prendre leur marque. Et voilà, il y a tout un travail, on le voit en fait aussi avec le beach volley où il y avait la taille au centimètre près de la tenue des beach volleyeuses qui étaient en bikini. Voilà, ce sont que un infime exemple de ce travail de réglementation qu'il faut dépoussiérer un bon coup aussi. Et la F1 en fait partie, quoi. Mais les femmes peuvent être attendues à tous les endroits sportifs, que ce soit pour piloter, pour manager, pour taper dans le ballon, pour taper dans une raquette, enfin avec une raquette. Donc oui, c'est dans cette démarche-là qu'il faut évoluer.
Voilà, allons-y, allons-y. Christian est avec nous. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Melchior. Bonjour à vos invités. Alors, on a beaucoup parlé de ballon rond. J'ai moi envie de vous parler de cyclisme quelques instants, parce que là aussi, il y a du cyclisme féminin, pour employer le mot, mais il n'a pas toujours été... il a même été parfois décrié, même par les garçons du peloton, voyez-vous. Alors, ça a changé, Dieu merci, et j'ai envie de dire que c'est grâce à quelqu'un en particulier... dans le monde qui n'est plus aujourd'hui dans les premiers rangs du monde cycliste féminin, mais c'était tout simplement Jenny Longo, qui était une femme qui a tout gagné quasiment, qui est sans doute encore aujourd'hui le plus beau palmarès de l'histoire du sport en France, et qui a su porter sa discipline et surtout faire passer le message. Et aujourd'hui, il y a encore du travail à faire, certes, mais aujourd'hui, les féminines sont reconnues. Alors, on leur reproche parfois des choses, et ça, je suis totalement opposé à ce genre de remarques. On leur reproche, par exemple, parfois un manque d'élégance, parfois de la maladresse. Les chutes, bien sûr, il y en a dans le peloton, mais il y en a aussi dans le peloton des masculins, des coureurs masculins. Donc voilà, c'est un témoignage pour vous dire merci déjà pour cette émission consacrée aux femmes et au sport féminin, encore une fois. Mais voilà, quoi, il y a de l'évolution, c'est très net. Et aujourd'hui, comme dans le football d'ailleurs, on s'aperçoit que la médiatisation fait son chemin également. Voilà mon témoignage.
Ah bah merci beaucoup Christian. Je pense que vous pouvez confirmer toutes les trois ce que nous dit Christian, et ça rejoint totalement ce qu'on s'est dit tout au long de l'émission. Capucine Jourdain, comment vous le recevez, ce témoignage ?
Bah oui, merci Christian de nous rappeler qu'il y a de l'espoir. En effet, hein, il y a beaucoup de travail qui est fait. Si on regarde, il y a des fédérations qui sont exemplaires. La fédération de handball, notamment grâce à Béatrice Barbus, qui a fait beaucoup pour la féminisation au poste de dirigeant. Et on la remercie pour tout son travail. Il y a la fédération de badminton aussi, qui est très paritaire. Il y a la Fédération internationale de tennis qui a été la première fédération à imposer des prize money égaux pour les hommes et les femmes dans les grands chelems. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, mais la route est encore longue. En fait, il ne faut pas qu'on se contente de ce qui est fait, il faut qu'on continue à battre le fer tant qu'il est chaud, j'ai envie de dire. Et qu'on continue notre combat, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il y a encore, même dans le cyclisme, même dans le handball, même dans le badminton, des hommes qui vont mépriser la pratique féminine. Il y a encore des fans qui méprisent la pratique féminine. Et pour moi, en fait, tant qu'il y a des fans d'un sport qui font une différenciation entre le féminin et le masculin, il y a du travail. Parce que si on est fan d'un sport, on devrait le regarder peu importe qui joue. Et c'est pas encore le cas.
En tout
cas, voilà, gardons espoir, mais continuons à travailler.
En tout cas, le sport, ça fait partie aussi de notre patrimoine en France. Et le patrimoine, justement, on va en discuter tout de suite avec notre chroniqueur. Alors là, c'est une autre sorte de patrimoine. Et notre chroniqueur, c'est Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous nous parlez d'une belle initiative pour permettre la restauration d'une œuvre d'art dans chaque région.
Oui, comme vous le savez, dans chaque ville et chaque village de France, on conserve dans les bâtiments, dans les églises, les mairies et sur les espaces publics un très grand nombre d'œuvres d'art. Donc on a des tableaux, des sculptures, des éléments du patrimoine mémoriel, industriel, scientifique. Et tous ces éléments subissent le passage du temps. Alors sans la vigilance des citoyens et sans restauration, ce qui constitue des repères communs sont voués à disparaître. Pour protéger ce patrimoine remarquable qui fait un peu l'âme de nos villes et villages, la Sauvegarde de l'art français et Alliance France ont lancé une grande campagne qui permet à chacun de voter en ligne pour permettre de primer dans chaque région une œuvre qui recevra 8000 euros de mécénat pour sa restauration.
Alors comment ça fonctionne, Jacques ? Comment voter pour une œuvre près de chez nous ?
Alors c'est vraiment très très simple, il suffit de se connecter sur le site de la Sauvegarde de l'art français, sauvegardeartfrançais.fr, et de se rendre sur la page Le plus grand musée de France avec Alliance. Vous pourrez alors voir, sélectionner d'abord la région de votre choix et voir les trois œuvres présentées dans cette région dans le cadre du concours. Alors vous y trouverez bien sûr des informations sur l'histoire, les besoins de restauration de chaque objet pour pouvoir vous faire ainsi une idée un petit peu plus précise. Ensuite, il suffit très simplement d'enregistrer votre vote avec une adresse mail et le tour est joué. Cela prend 3 minutes et vous donnez un véritable coup de pouce à des porteurs de projets qui sont très motivés sur le terrain pour remporter ce mécénat.
Et allez, petit exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelles sont les œuvres à soutenir ?
Alors vous avez là trois petits trésors du patrimoine régional. En Savoie, tout d'abord à Beaufort, avec une toile qui présente la Vierge entourée des saints, qui a été présentée dans le cadre du concours par une association extrêmement dynamique qui a déjà entièrement restauré la chapelle dans laquelle elle se trouve. À Caire, dans le 43, donc la Haute-Loire, vous avez une Pietà du XVIIe siècle qui est en très mauvais état et qui aurait bien besoin d'une restauration. Et enfin, une toile magnifique du XVe siècle qui est conservée à Ghana, dans l'Allier, et qui s'appelle la Crucifixion.
Ouais, difficile de choisir hein, parmi tout cela, mais je crois que j'ai ma petite idée. Est-ce qu'on peut voter pour les autres régions, Jacques ?
Absolument, vous pouvez ensuite aller voir dans chaque région et voter, même avec la même adresse mail. Et donc au total, ce seront 16 œuvres d'art qui bénéficieront chacune de ce mécénat. Et pour vous dire, en une semaine de vote, on a déjà plus de 25 000 personnes qui ont voté en ligne. Et donc vous avez jusqu'au 21 mars dans la soirée pour aller soutenir un projet de restauration du patrimoine local près de chez vous.
Et une belle manière de sauver le patrimoine de France. Merci beaucoup Jacques de Chauvelin et rendez-vous, comme vous l'avez dit, sur le site de la Sauvegarde de l'art français, sur la page Le plus grand musée de France avec Alliance. Bah voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission, ça passe très très vite. Je vous remercie toutes les trois d'avoir été avec nous pour parler du sport féminin, des sportives. Voilà, on va terminer avec ça. Capucine Jourdain, chargée de développement de l'association Graines de Footballeuses, à retrouver sur le site internet grainesdefootballeuses.com, c'est tout au pluriel, je précise. Nathanaël Gerbeau, secrétaire de l'association Les Dégommeuses, là aussi à retrouver sur le site lesdégommeuses.org. Et merci également Aurélie Bresson, à vous, présidente de la fondation Alice Mia, à retrouver sur le site fondationalicemia.com. Je vous souhaite une belle journée des droits des femmes, à vous trois et puis à toutes nos auditrices nombreuses à nous écouter chaque matin, et puis les hommes comme Christian, vous entendez qu'il y a de l'espoir, il faut continuer de combattre et de se battre pour montrer ses droits des femmes, voilà, et non pas droits de la femme, j'ai bien retenu. Merci à toutes les trois, merci à Alice, à Antoine, à Pierre-Henri, je me perds dans les prénoms, à Pierre-Henri, à Théo, Lucie et Catherine qui ont permis la réalisation, et on se retrouve demain de 9h à 11h pour parler de Tintin.